Je vous invite encore à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Tu veux encore aujourd'hui, Seigneur, nous encourager. Tu veux, Seigneur, nous parler au travers de cette parole. Te prions d'ouvrir notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce message que tu veux nous transmettre ce matin. Que nous puissions, Seigneur, être attentifs à ta parole. Merci de nous rendre disponibles dans notre cœur aujourd'hui. De faire silence en nous, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être concentrés, entendre ta parole, mais aussi la mettre en pratique. Que ce soit une occasion, Seigneur, de plus pour nous de prendre les bonnes résolutions. Seigneur, que ce ne soit pas seulement des paroles qui passent, mais des paroles qui soient ancrées dans notre cœur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien, bonjour à chacun. Heureux d'être parmi vous encore ce matin pour ce dimanche un peu particulier. Vous savez que c'est un dimanche de baptême. Donc c'est Williams, Christelle et Farah qui vont se faire baptiser. Alors, ils vont se faire baptiser donc ici. Ce n'est pas un rite qu'ils vont accomplir. Ce n'est pas un acte miraculeux ni magique. Ce n'est pas non plus pour se conformer à une certaine tradition de l'Église. Le baptême est avant tout un acte symbolique, un acte d'obéissance aussi à la parole de Dieu. Et nos trois amis, Williams, Christelle et Farah, en passant par les eaux du baptême, ils veulent montrer publiquement que désormais ils ont un nouveau maître dans leur vie, et ce nouveau maître s'appelle Jésus-Christ. Désormais, ce sont des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Et dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, nous trouvons souvent cette expression « enfant de Dieu ». Et nous allons le développer un peu aujourd'hui. Une parole de Dieu qui dit que ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Donc quand on parle d'enfant de Dieu, on parle de quelqu'un qui est né non pas par voie naturelle, mais qui a été engendré par Dieu sur le plan spirituel. Donc Williams, Christelle et Farah font partie de ceux qui sont passés par cette nouvelle naissance, cette naissance spirituelle. Un jour, ils ont reconnu leur misère, leur péché devant la sainteté de Dieu, et ils ont accepté le pardon de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Ils ont reçu la nouvelle vie, la vie éternelle. La Bible parle aussi de cette nouvelle naissance qui est à l'origine d'une nouvelle identité, qui est l'identité de l'enfant de Dieu. Donc j'ai préparé un petit PowerPoint pour... Et nous allons lire un passage qui se trouve dans 1 Jean chapitre 3 versets 1 à 10. Enfant de Dieu, c'est une identité merveilleuse. C'est un statut qui est très riche en sens et en implication. Lisons ce texte qui se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 3 et on va lire les 10 premiers versets de ce passage. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté, n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Jusque-là, notre lecture de ce matin. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement nous attarder sur l'enfant de Dieu et notamment quelques affirmations sur ce statut d'enfant de Dieu. D'abord, l'auteur de cet épître s'appelle Jean. C'est un des disciples de Jésus-Christ pendant le ministère terrestre de Jésus. Donc il est connu pour avoir écrit non seulement le quatrième évangile, mais aussi trois autres lettres qu'on appelle les épîtres de Jean. Et ce qu'on vient de lire se trouve dans cette première épître. Donc trois grandes affirmations sur l'enfant de Dieu. Première affirmation, l'assurance de l'amour de Dieu. Nous avons lu dans ce premier passage, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu ». Et nous le sommes. Donc là, d'emblée, l'apôtre Jean établit une connexion entre l'amour de Dieu le Père et le fait que les chrétiens soient appelés enfants de Dieu. On dit souvent que la naissance est le fruit de l'amour des parents, n'est-ce pas? C'est généralement vrai, hein, même si, hélas, dans la réalité, il y a parfois des grossesses non désirées, des parents qui renient leurs enfants. Mais d'une manière générale, une naissance est le fruit d'un amour, l'amour des géniteurs. Et de même, le fait que le chrétien puisse être appelé enfant de Dieu découle de l'amour de son Père céleste. Et l'apôtre Jean en voit dans ce passage, il est émerveillé par cet amour. Il insiste, il dit « Regardez, voyez combien Dieu nous aime, le Père nous a aimés. » Et là, il invite ses lecteurs à contempler cet amour extraordinaire, cet amour inconditionnel qui a poussé Dieu à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ. Un amour inconditionnel. Et dans la Bible, nous pouvons lire plusieurs passages qui témoignent de cet amour hors du commun. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quelle déclaration. Un autre passage, je t'aime d'un amour éternel. Éternel, qui ne change pas jusqu'à l'éternité. D'autres passages, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. C'est Jésus qui parle. Un autre passage encore. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Paul dit aussi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand je dis Paul, c'est l'apôtre Paul. Encore un passage. À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Voilà, on pourrait multiplier vraiment les passages bibliques dans ce sens. Donc tout ça nous montre le merveilleux amour qui fait entrer le chrétien dans la famille de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut être dans la famille de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu a démontré la nature de son amour en faisant pénétrer vraiment le chrétien dans sa famille comme ses enfants, les enfants adoptifs. Quel privilège hein, de pouvoir être appelé enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Et quelle est la nature de cet amour de Dieu envers ses enfants? C'est un amour qui est motivé par la seule grâce de Dieu, par la seule grâce de Dieu. C'est un amour sans distinction de race, un amour sans distinction de couleur de peau ni de statut social. C'est un amour qui ne dépend pas de notre casier judiciaire, ni de nos mérites, ni de notre intelligence. C'est un amour qui ne calcule pas, un amour qui se donne sans rien espérer en retour. C'est un amour qui se sacrifie. Chers amis, la valeur personnelle du chrétien, de l'enfant de Dieu, ne repose pas sur ses qualités propres, ses qualités intrinsèques, mais sur le seul fait que Dieu l'aime. Il appelle son enfant, c'est tout. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer dans sa grâce. Alors, chers Williams, Christelle et Farah, vous êtes enfants de Dieu. Vous pouvez affirmer haut et fort que Dieu vous aime. Parce que c'est un Père parfait avec un amour parfait. Mais du fait que le chrétien fait partie de la grande famille de Dieu, il se trouve rejeté par le monde. C'est le verset 1 qui le dit, la deuxième partie dit « Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. » Le monde dont il est question ici, c'est le monde en tant que système. Le monde en tant que système organisé clairement sous la coupe du diable, sous le contrôle de Satan. Quand on entend le monde dans la Bible, notamment dans les écrits de Jean, il veut dire par là ce système qui nous entoure, ce système qui ne connaît pas Dieu, ce système qui est régi par le diable, qui est d'ailleurs appelé le prince de ce monde. C'est à ce monde-là que fait allusion l'apôtre Jean dans ce texte. Le monde est quelque chose qui est totalement incompatible avec Dieu. On va un peu laisser régler les problèmes familiaux. Pas facile, hein? Alors, je parlais de ce monde. C'est un monde qui est totalement incompatible avec Dieu. C'est pour cela que le monde, ce monde-là, ne veut ni recevoir ni reconnaître le chrétien. Et les chrétiens, justement, peuvent constater cette réalité au quotidien, n'est-ce pas? L'enfant de Dieu est souvent victime de l'indifférence, souvent victime du mépris, des moqueries de ce monde, ou même de la persécution. D'ailleurs, plus loin, l'apôtre Jean écrit, au verset 13, il dit « Ne vous étonnez pas si le monde a de la haine pour vous. » Je crois que c'est un passage que j'ai aussi écrit. Voilà. On ne l'a pas lu dans ce passage, mais un peu plus loin, au verset 13, Jean dit « Il ne faut pas s'étonner que le monde a de la haine. » Le terme est fort, de la haine pour les chrétiens. La Bible affirme aussi que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Ailleurs, il est aussi écrit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » L'enfant de Dieu est donc averti. Mais en même temps, il a une formidable raison d'espérer. Christ a vaincu le monde. Et le chrétien sera aussi vainqueur avec lui. Vaincre le monde, c'est triompher des tentations de ce monde. Vaincre le monde, c'est marcher à contre-courant de ce que tout le monde fait. Souvent, on est confronté à cela, n'est-ce pas? Oh, tout le monde fait ci, fait ça, pourquoi le chrétien ne le ferait-il pas? Le chrétien est appelé à être un flambeau qui brille dans les ténèbres de ce monde. Voilà ce à quoi ils sont appelés. Donc, première grande affirmation, d'abord l'amour de Dieu, l'assurance de l'amour de Dieu. L'enfant de Dieu a cette assurance que Dieu l'aime et que c'est un amour qui ne change pas, un amour éternel. Deuxième grande affirmation, il y a la perspective pour l'enfant de Dieu de ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ. Le statut d'enfant de Dieu est un statut que nous avons, en tout cas celles et ceux qui ont accepté Christ, dès le moment où ils se où ils se convertissent. Mais cette nouvelle identité d'enfant de Dieu prendra sa vraie valeur quand le Seigneur Jésus reviendra. Hein, c'est ce que Jean écrit, il dit « Ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. » Ça veut dire que le meilleur est à venir. Un jour, le Seigneur Jésus va revenir. Est-ce que vous le pensez? Oui. Il l'a promis dans sa parole. Et ce jour-là, chers amis, il jugera l'humanité. Ceux qui auront accepté comme maître hériteront de la vie éternelle, hériteront du paradis. Mais ceux qui l'auront renié seront voués à la perdition éternelle. Et ici, l'apôtre Jean donc fait allusion à ce retour, à ce jour où tous les enfants de Dieu le verront tel qu'il est. Et la parole dit qu'à ce moment-là, nous serons semblables à lui. Que veut dire cette expression mystérieuse? Alors, il faut savoir qu'au commencement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que le premier homme, Adam, était un homme qui était pur sur le plan moral. Mais, malheureusement, le mal s'est introduit. Et l'homme s'est rebellé contre son créateur. Vous connaissez l'histoire. Mais dès lors, l'image de Dieu qui était en l'homme s'est corrompue. Et de génération en génération, le péché s'est étendu à toute l'humanité. Avec comme conséquence la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Une situation dramatique donc. Mais une situation dramatique que Dieu a pourtant voulu restaurer. En offrant aux êtres humains, la possibilité d'être malgré tout sauvé. Pour cela, Dieu est venu visiter notre humanité en s'incarnant en son Fils Jésus-Christ. Il y a de cela plus de 2000 ans. Il est venu pour prendre à son compte nos fautes. Il est venu pour subir les conséquences de nos péchés. Par amour, Jésus-Christ a enduré la mort. Il a versé son sang sur une croix à cause de nous. Mais il n'est pas resté sur cette croix. Il est ressuscité et il est vivant éternellement. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus sont des enfants de Dieu, qui sont appelés à restaurer l'image corrompue de Dieu en eux afin de ressembler, d'être semblables progressivement à Christ. Il y a donc une transformation chez le chrétien qui va se faire petit à petit. Dieu va opérer graduellement des changements chez l'enfant de Dieu. Alors il y aura peut-être des mauvaises habitudes qui vont changer, qui vont disparaître au fur et à mesure que le chrétien progressera dans sa foi. Hein, ça pourra par exemple se constater au niveau de la façon de s'habiller, de parler, de raisonner, de prendre des décisions, n'est-ce pas? C'est un processus qu'on appelle aussi le processus de sanctification. Eh bien, il sera complètement achevé quand l'enfant de Dieu rencontrera le Seigneur Jésus-Christ, quand il le verra face à face. C'est à ce moment-là que l'enfant de Dieu sera semblable à Christ. Alors, il ne s'agira pas d'une ressemblance physique avec Jésus, mais de revêtir la condition morale parfaite de Christ. L'enfant de Dieu sera donc moralement semblable à Christ, définitivement victorieux des tentations, définitivement libéré des souillures du péché, définitivement délivré de la maladie, du stress, du chagrin, mais aussi de la mort. Et de plus, il aura un corps nouveau, un corps glorifié, prêt à entrer dans l'éternité avec Dieu. N'est-ce pas quelque chose de formidable? Mais tant que l'enfant de Dieu sera sur cette terre, bon, il lui arrivera encore de tomber. Il lui arrivera encore de faire des erreurs. Qui n'en fait pas? Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais péché? Est-ce que quelqu'un peut lever la main en disant « Je n'ai jamais péché depuis que je suis chrétien » Hein, s'il le fait, c'est que c'est un parfait menteur. Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes encore dans un processus, disais-je, de sanctification. Donc, deuxième grande affirmation, cette perspective de ressembler un jour au Seigneur Jésus, quand il viendra, quand nous le verrons tel qu'il est. Mais il y a une grande affirmation aussi, la troisième, c'est la nécessité de se purifier comme Jésus-Christ est lui-même pur. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Et dans notre texte, donc, l'apôtre Jean veut dire que la perspective de voir un jour le Seigneur Jésus face à face doit donner à l'enfant de Dieu la motivation pour mener une vie droite. C'est à cela que le chrétien est appelé. L'enfant de Dieu n'est pas sauvé pour se contenter de son salut, attendre tranquillement le jour de sa mort et le jour de la venue de Jésus. Il est sauvé d'abord pour honorer Dieu dans sa vie, dans son corps, au quotidien, tant qu'il sera sur cette terre. Et non pas pour s'adonner au péché. Il y a des gens qui pensent, bon voilà, je suis sauvé, maintenant je peux faire ce que je veux. Non. Le péché est quelque chose de grave. Et dans le verset 4 de notre passage, d'ailleurs, Jean souligne la gravité du péché, qui est une violation, un mépris de la loi de Dieu, totalement incompatible avec la vie pure que devrait mener le chrétien. Je le disais tout à l'heure, certes, l'enfant de Dieu trébuchera encore. Mais pour lui, le péché devra être un accident, et non une volonté délibérée de transgresser la loi de Dieu. Lorsqu'un chrétien commet une faute, ça vous arrive certainement, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est de le regretter sincèrement. De la confesser, de la réparer si possible, pour obtenir le pardon divin. Mais sa vocation, c'est malgré tout de progresser jour après jour dans la sanctification. Son défi au quotidien, c'est de se conserver pur. Il a été purifié, c'est un fait. La parole nous dit, vous avez été purifié, vous avez été lavé, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, c'est un fait. Mais le défi du chrétien au quotidien, c'est de se conserver dans cette pureté. Et comment se conserver pur? En commençant chacune de nos journées à offrir notre corps à Dieu, en restant en communion avec Dieu par la prière, par la lecture, la méditation régulière de la Bible, pour y puiser la volonté de Dieu, y puiser un encouragement, une édification pour nous. Une petite anecdote. Un groupe de jeunes avait organisé une petite fête, à la suite de laquelle quelqu'un suggéra d'aller terminer la soirée dans un café, dans un bar où on allait bien s'amuser. Et parmi ce groupe de jeunes, il y avait une chrétienne, appelons-la Josiane. Voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, non, je préfère rentrer chez moi. Mes parents ne seraient pas contents que j'y aille. Tu as encore peur des parents? De tes parents à ton âge? Demande sur un ton moqueur une de ses amies. Non, répondit Josiane. Je n'ai pas peur de mes parents. Je n'ai simplement pas envie de leur faire de la peine. Josiane, là, avait compris le principe selon lequel le véritable enfant de Dieu, qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu, n'a aucune envie, ni aucun intérêt à pécher contre cet amour. Chers amis, en attendant le retour du Seigneur, l'enfant de Dieu est appelé à rester pur comme le Christ lui-même est pur. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour Williams, Christelle et Farah, et pour tous ceux qui sont enfants de Dieu dans cette salle. Alors en conclusion, j'aimerais relire les deux derniers versets de notre lecture de ce matin, qui dit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. » C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors ici, chers amis, il est question de deux types d'enfants. Radicalement différents. Les enfants de Dieu. Et l'autre type, c'est quoi? Les enfants du diable. La question qui peut se poser ce matin, une question un peu crue, je l'admets, c'est quel type d'enfant sommes-nous aujourd'hui? Si comme William, c'est Christelle et Farah, nous sommes passés par la nouvelle naissance, qui consiste à se laisser purifier intérieurement de nos péchés, eh bien nous sommes des enfants de Dieu, destinés à la vie éternelle. Mais dans le cas contraire, nous sommes des enfants du diable. Le mot est cru. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous sommes des enfants du diable, c'est-à-dire que nous sommes encore sous la coupe de ce monde, de ce système régi par le diable. Et par conséquent, nous sommes destinés aux tourments éternels, à la mort éternelle, à l'enfer. Chers amis, Dieu nous donne encore aujourd'hui l'occasion de changer de vie en recevant le pardon de nos péchés, en acceptant que Jésus-Christ vienne prendre la direction de notre existence et qu'il soit le maître de nos vies. La parole de Dieu dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est un cœur prêt à demander pardon, à s'humilier? Ou est-ce que c'est un cœur dur, aveuglé par ce monde? Un cœur qui refuse de capituler devant Dieu. Vous savez, l'obtention du salut, et par là même l'obtention de la nouvelle identité d'enfant de Dieu, ce n'est pas une entreprise compliquée, ce n'est pas une entreprise périlleuse. Mais c'est une entreprise, par contre, qui demande une grande humilité, parce qu'il s'agit de reconnaître nos fautes. Et souvent, combien c'est difficile, n'est-ce pas? Il suffit de voir ceux qui ont des enfants, c'est difficile pour eux parfois de reconnaître leurs fautes. L'homme est fait ainsi. Mais l'obtention du salut demande une grande humilité, reconnaître ses fautes, accepter le pardon de Jésus, qui est venu il y a plus de 2000 ans sur une croix pour se sacrifier afin de nous donner et nous offrir la vie éternelle, afin de nous laisser diriger notre vie par lui. Il s'agit donc simplement de mettre toute notre confiance en Jésus. Et si quelqu'un désire sincèrement, aujourd'hui, changer de statut, passer du statut d'enfant du diable à enfant de Dieu, eh bien, il suffit de faire cette démarche, aujourd'hui même, sans tarder. Je prie que ce message puisse toucher les cœurs aujourd'hui et faire prendre les bonnes résolutions dans votre vie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as donné, Seigneur, tu as accordé la grâce à nos trois amis qui vont passer par les eaux du baptême, le privilège d'être des enfants de Dieu. Seigneur, c'est vraiment un privilège parce que nous ne méritons pas ce statut, nous ne méritons pas, Seigneur, d'hériter de la vie éternelle à cause de nos péchés. Mais Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, tu nous as offert, Seigneur, cette vie éternelle. Et tu permets, Seigneur, que toutes celles et ceux qui mettent leur confiance en toi puissent être sauvés et passer de la perdition éternelle au salut éternel. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je te prie vraiment pour tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui en sont encore dans l'aveuglement. Seigneur, que tu ouvres leurs yeux et que tu ouvres leur cœur, Seigneur, aujourd'hui. Qu'ils puissent t'accepter pleinement comme celui qui dirige leur vie. Qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, leurs fautes, leurs péchés, qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont été rebelles à tes yeux, qu'ils ont toujours été sourds à ton appel, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, ils veulent t'écouter, ils veulent venir à toi. Seigneur, merci d'agir puissamment par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen.